La géographie, c'est l'histoire dans l'espace, et l'histoire, c'est la géographie dans le temps.
Le témoin de ce vendredi, un géographe, Roger Brunet, nommé la France.
Les Hauts-de-France, en plus, ils ont changé les noms des autres régions aussi, hein. Ah ouais, c'est Beaubourg, c'est attends. Parce que là, je vais partir en tournée avec ma nouveau spectacle, hein, et ben, on est paumé, hein. Même le GPS est paumé, hein. Alors, attends, il y a les Hauts-de-France, après, je vais aller là-bas, là, dans la région, ça s'appelle maintenant la région du côté de France. Et après, il y a la région de l'autre côté de France. Et puis après, je finis la région d'en bas de France. Et puis après, je finis au milieu de France, là, d'où il y a l'Olympia.
Nommé, c'est un pouvoir. La tentation est donc forte de choisir des noms flatteurs. Val de quelque chose, c'est pas mal. Haut de ceci ou cela, c'est encore mieux. Évidemment, si les géographes étaient consultés, ils observeraient que sur une carte classique, il y a plutôt un nord et un sud qu'un haut et un bas. Au fond, les spécialistes des lieux devraient avoir voix au chapitre quand il s'agit des noms. On nous parle aussi beaucoup des territoires. Chacun devrait se distinguer par une spécialité. Sur le territoire de la France, nous avons ainsi nombre de petites Silicon Valley, Mécanique Valley, etc., etc. Si on écoutait davantage les géographes, spécialistes en effet de la différenciation territoriale, on les entendrait dire que la France n'est peut-être pas d'abord un territoire et que la différenciation territoriale ne peut pas se faire sur un facteur unique. En plus, il ne faut pas l'imaginer stable et éternel. Curieux de tout, Roger Brunet pourrait répondre à beaucoup de nos questions. C'est un immense géographe, au sens de inépuisable. C'est une mine. Il est d'ailleurs l'auteur d'un maître-livre sur le diamant. Un entrepreneur aussi, il a dirigé des travaux collectifs impressionnants, une géographie universelle entre autres. Et il a publié naguère un dictionnaire des mots de la géographie. Et voici maintenant son trésor des noms de lieux en France qui pourrait nous aider à remettre les mots et les choses à l'endroit. Encore qu'en géographie, rien n'est d'équerre.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Bonjour à vous, Roger Brunet.
Bonjour.
On compare souvent les journalistes à des caméléons parce qu'ils se fondent dans un milieu. Vous êtes un peu un caméléon, vous, tant vous avez de curiosité pour les milieux, les spécialités les plus diverses.
Elles sont dans la même ligne. Je ne suis que géographe. J'essaie de l'être pleinement. Le géographe, vous savez, c'est quelqu'un qui a pour question fondamentale qu'est-ce qui est là et pourquoi c'est là comme ça.
Je peux vous interroger sur des déclarations politiques pour commencer. Nous sommes en début d'année.
Allons-y.
Emmanuel Macron, candidat à la présidence de la République. Il y a trois France, monsieur Brunet. La France métropolitaine,
oui,
européanisée,
oui.
La France des quartiers, extrêmement contrastée, dynamique et féconde par beaucoup d'aspects, et puis la France oubliée. Qu'est-ce qu'un géographe a à dire de distinction aussi grossoyante, comme disait Alphonse Dupron, un historien qui détestait ces distinctions trop grossières?
Rien. En réalité, ces généralités n'ont absolument aucun sens. Il y a des villes en France, il y a des campagnes, il y a des situations entre les deux, il y a des régions qui sont plus dynamiques que d'autres, il y a des communes qui se débrouillent très bien même quand elles sont en périphérie, et les communes ce sont jamais que des petites collectivités. Or, les familles elles-mêmes à l'intérieur de ces communes ne sont pas nécessairement homogènes.
Mais vous voyez que cette vieille différence joue encore de département en département sur 90 cas dans le territoire ?
À certains égards, je dirais qu'elle n'a jamais été aussi sensible. Parce que les chefs-lieux de département, dans la plupart des cas, sauf s'ils sont extrêmement petits, ce qui est quand même rare, ont réussi à s'imposer, à diffuser. On habite maintenant facilement à 25 ou 30 kilomètres du chef-lieu, mais on y travaille. Ce qui fait que la plupart des départements se remarquent au fait que leurs périphéries ont quelques difficultés d'approvisionnement, de services. Elles sont un peu loin et elles ne reçoivent pas autant de population. C'est très clair, par exemple, dans le cas de départements du centre ou de l'ouest de la France.
Alors, on va prendre le cas d'un département du centre, parce que une de vos publications récentes aux éditions Geste, Roger Brunet, c'est un atlas de la Touraine que vous avez parcouru à pied dans beaucoup de cas, parce que vous êtes un adepte de
vieux mot, vieille expérience, la randonnée géographique.
Oui, parce qu'il n'y a pas de pente vertigineuse, de temps en temps des petites difficultés, mais pas trop, et ça permet de voir des paysages extrêmement différents. C'est de là d'ailleurs qu'est venue l'idée d'une part de travailler sérieusement sur les noms de lieux, parce qu'ils sont quelquefois pittoresques, et aussi parce que on s'aperçoit d'une part que la vieille idée selon laquelle Tours entraînait le désert tourangeau est une idée assez fausse dans la mesure où les deux tiers maintenant des communes sont entraînées par Tours, qui est en train de devenir métropole comme on le sait. Et les périphéries en question, qui certes, sur certaines cartes, se remarquent au nombre de personnes âgées, aux faibles revenus, mais il faut se méfier parce que les revenus à la campagne sont pas toujours parfaitement identifiés par le fisc, sont en réalité des endroits plaisants, bien entretenus, qui ne donnent pas du tout une impression d'abandon.
Bon, donc il faut parler en termes de marqueterie, mais c'est pas une marqueterie sans signification, il y a des lois dans l'organisation des territoires. Ah, je voulais vous interroger sur le mot territoire maintenant, et puisqu'on est dans la politique, vous faire entendre ce qui est à peine un montage. C'est un enregistrement de Ségolène Royal qui a une affection pour ce mot.
Ce que d'ailleurs nous essayons de faire dans la région Poitou-Charentes, puisque nous poussons en avant toutes les forces d'innovation, les jeunes, les entreprises. Nous leur disons qu'elles ont du talent, qu'on a envie qu'elles créent des emplois, qu'elles réussissent, qu'elles exportent. Et cela, il faudrait le faire sur la totalité du territoire national.
Ça a correspondu aussi à une attente sur les territoires, et puis souvent à des territoires qui étaient en avance, paradoxalement, qui étaient en avance. Bon, moi aussi, j'étais une élue de territoire pendant très longtemps, vous le savez. Et c'est vrai que j'ai veillé dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte à ce que on prenne en considération ce qui avait marché sur les territoires, ce qui réussissait, et de les généraliser dans une loi pour dire, ben voilà, ça marche dans tel territoire, ben du coup, vous pouvez généraliser ça sur l'ensemble du territoire.
J'ai beaucoup donné pendant les campagnes nationales, et maintenant je me consacre à mon rôle de présidente de région, et c'est passionnant parce qu'on est aux côtés de... Voilà, de personnes paisibles, authentiques, et qui s'impliquent sur le développement de leur territoire. Bonjour madame.
Alors je vous prie de rester calme, monsieur le géographe Roger Brunet. Sérions, parce que le mot est utilisé là par Ségolène Royal avec beaucoup d'usage. La France, c'est un territoire.
À certains égards, oui, si un territoire se définit par des limites gérées par un gouvernement. Ça peut se dire. Mais dans l'idée et l'usage qu'elle fait du mot territoire, il y a deux choses. D'un côté, il y a un progrès. Moi, j'ai assisté pendant de nombreuses années au règne des énarques, il n'est pas fini, qui n'avaient aucune formation en géographie, qui n'avaient pas l'idée de ce que pouvait être un territoire. Et j'apprécie déjà que Ségolène Royal en parle, et en parle, je ne dis pas savamment, mais enfin avec des intentions, abondamment. C'est déjà bien qu'on considère qu'il peut y avoir des solidarités à l'intérieur d'un territoire quelconque, défini par ses activités, par un groupe d'habitants, par une collectivité locale, ou plutôt maintenant une intercommunalité. En même temps, nous, je crois que nous nous méfions beaucoup de ce qu'on a voulu faire dire à certains territoires, et en particulier au temps où la DATAR et quelques autres organismes de ce genre prétendaient organiser la compétition des territoires. Ça, c'est une expression que j'ai en horreur, parce que les territoires sont pas faits pour compéter, si j'ose dire. Ils sont faits éventuellement pour s'aider les uns les autres et pour transmettre des expériences. L'émulation des territoires, à la rigueur, on peut y songer. Mais avec territoire, on a eu des dérives tout à fait regrettables d'ethnocentrisme, de quasi-autonomie ou volonté d'autonomie et à la limite de conflits qui sont absolument stupides. On n'en est pas là, on ne doit pas en être là en France.
Et par goût de la provocation, on va parler de votre dictionnaire des noms de lieux en France. Voilà que vous utilisez maintenant, il était dans votre dictionnaire, dans les mots de la géographie, il y a une vingtaine d'années, mais plus souvent peut-être le mot que prononçait Jacques Chirac à deux reprises dans ses années 96-97, d'abord à l'occasion de la disparition de son prédécesseur.
François Mitterrand, s'il débordait sa vie, c'est parce qu'il avait la passion de la vie. La vie sous toutes ses formes, la vie dans ses heures sombres et ses heures glorieuses. la vie du terroir, la vie de nos campagnes, cette France rurale qu'il a tant aimée, presque charnellement.
Nous sommes engagés dans une grande entreprise inéluctable de modernisation de notre pays. Il s'agit de préserver notre protection sociale, de revitaliser notre terroir, bref, de restaurer et de conforter les équilibres sociaux.
Deux fois, vous avez entendu le mot terroir, vous l'utilisez pour votre dictionnaire des noms de lieux, CNRS édition, trésor du terroir, terroir, Roger Brunet.
On sent bien que chez Monsieur Chirac, terroir, ça va avec le cul de hache. C'est quelque chose de rural et qui porte certains types de valeurs. C'est pas du tout ça un terroir, c'est tout simplement une unité géographique qui se définit par ses qualités particulières, qu'elles soient de sol, qu'elles soient de climat à la rigueur, mais enfin de microclimat, qu'elles soient d'habitation. Et la raison pour laquelle j'ai parlé de trésor du terroir, en prenant trésor au sens ancien du mot, c'est-à-dire une sorte de dictionnaire encyclopédique, terroir parce que, précisément, l'interrogation que j'avais, c'était qu'est-ce qui a permis à ceux qui ont nommé les lieux, de les nommer. Qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête? Qu'est-ce qu'ils ont voulu y voir?
Alors, on peut expliquer comment l'idée vous est venue. Alors, vous parlez des randonnées géographiques. Et vos partenaires dans la randonnée vous demandent, mais pourquoi ça s'appelle comme ça, ce lieu dit?
En tant que vieux géographe, j'aime pas trop les randonnées pendant lesquelles on se contente de regarder le chemin et où on met les pieds. Il me faut m'arrêter de temps en temps et éventuellement, si c'est possible, commenter le paysage, dire qu'est-ce qu'on voit à mes amis randonneurs, pourquoi c'est comme ça. Ça, c'est mon vieux défaut de géographe. Parce que j'ai souvent été interrogé sur mais pourquoi ce lieu-là s'appelle les œufs durs, pourquoi ça s'appelle Roiville, pourquoi des noms de ce genre. Roiville, c'est ni la ville ni le roi, c'est le gué rito d'une ancienne villa, c'est-à-dire d'un ancien domaine rural, et ainsi de suite.
Oui, mais quand il y a le mot ville, vous êtes obligé de rendre les armes et de dire que ce sont les spécialistes des langues qui identifient une racine, vec, d'où vient vic, ville, villaret, villa. En quoi on a besoin d'un géographe alors qu'on a des spécialistes des racines des langues?
Très bonne question, ça a été mon problème. Lorsque j'ai voulu en savoir un peu plus, j'ai lu tous mes collègues linguistes. Ils ont beaucoup publié. Ils ont fait des progrès tout à fait considérables, surtout dans les 30 ou 40 dernières années. Je leur tire mon chapeau. Mais de temps en temps, ils sont obligés de faire des hypothèses parce que il est extrêmement rare, en fait, que nous connaissions l'origine réelle d'un nom de lieu. Et les formes anciennes de ces noms sont souvent altérées par les scribes. Et on sait que la transmission écrite a beaucoup de faiblesses, au moins autant que la transmission orale. Et j'ai donc éprouvé le besoin, lorsque j'avais des doutes, de regarder le terrain. Soit directement quand c'est possible, soit par l'intermédiaire des nombreuses cartes très détaillées de l'Institut Géographique National que j'ai essayé d'exploiter à fond. Et chaque fois que j'avais un doute, je regardais le terrain.
Alors on va procéder à un exercice, si vous le voulez bien. Chez les Brunet, il y a un atelier de peinture, un atelier de cartonnage, l'endroit où vous faites vos cartes, votre bibliothèque. Et puis, vous vous retrouvez à déjeuner à l'heure du jeu des 1000 euros.
Chers amis, bonjour. Bienvenue aujourd'hui, toujours dans le Haut-Var, et nous sommes à présent à Sillan-la-Cascade. Alors on dit Sillan ou Sillan, les deux se disent, c'est un joli nom en tous les cas. Village situé au bord de la rivière la Bresque, et qui vit d'ailleurs essentiellement du tourisme grâce à une cascade, d'où son nom, Sillan-la-Cascade, une cascade spectaculaire d'une hauteur de 42 mètres.
C'est un grand jour. En effet, aujourd'hui, pour la première fois, je suis heureux de vous montrer mon cul à la télévision.
Et dites-moi, j'ai l'impression, là on arrive dans une petite ruelle, j'ai l'impression que mon cul est très étroit.
La circulation est pénible dans le centre du village.
C'est ça, vous faites des visites organisées de mon cul.
Visites organisées, c'est pas le mot, mais enfin on leur permet de voir tout ce qu'ils veulent voir.
Bon, ça c'est bien, c'est bien. Et il y a beaucoup de choses à voir dans mon cul.
Surtout des vieilles pierres.
Chers amis, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour cette semaine spéciale jeune du jeu des 1000 euros. Autrement dit, à l'occasion de Noël, nos candidats sont des élèves d'une école élémentaire, l'école Claude Debussy à Rouen, et nous sommes dans l'école. Une école où il y a cette année 303 élèves répartis dans 15 classes, dont deux ULIS. Les ULIS sont les unités localisées pour l'inclusion scolaire.
C'est mieux de le dire d'ailleurs. Alors laissons de côté un instant Daniel Prévost, le petit rapporteur, mon cul. Je demande s'il ne faut pas dire mon cul d'ailleurs. Et prenons les deux autres cas du jeu des 1000 euros. Rouen.
D'après les linguistes, ça s'appelait à l'origine Rotomagus, c'est-à-dire le marché du guet. On retrouve le rito que j'évoquais tout à l'heure. Et Magus, c'est un nom qui est fréquemment utilisé pour d'anciens marchés.
Alors quand on lit l'Atlas de la Touraine, une autre de vos productions, Tours, ça vient aussi d'un nom de peuple ?
Ah, ça vient d'un nom de peuple, incontestablement.
C'est pas des tours ?
Non, il n'y avait pas de tours. Les Romains ont créé une ville sans tours, sans fortifications, qu'ils appelaient Caesarodunum, c'est-à-dire le monticule de César. Monticule parce qu'ils avaient été assez habiles pour trouver dans la vallée de la Loire un endroit non inondable. Et ensuite, au deuxième ou troisième siècle, tous ces noms-là ont été abandonnés et ont été transformés en noms du peuple qui était là. C'était les Turons, Tours, dérivés de Turon, pour remplacer Caesarodunum.
C'est plus simple avec des communes comme Sillon, la Cascade, qui était évoquée dans le premier épisode du jeu des 1000 euros que nous avons entendu. Ça, c'est dans les années du XXe siècle, souvent, qu'on nomme en fonction d'un avantage naturel ou considéré comme bénéfique.
Oui, 19e et 20e, j'ai étudié spécialement tous les changements de communes en France depuis la Révolution. Et ça a toujours été des rectifications, soit pour retrouver une orthographe ancienne, soit plus fréquemment pour se flatter, ou pour abandonner un adjectif considéré comme déplaisant. Alors, les Cascades, c'est toujours très flatteur.
Mais le Val, c'est flatteur aussi.
Le Val, c'est flatteur. Il y a même des Vals en montagne, comme Val d'Isère et autres, ce qui est un peu paradoxal, mais c'est comme ça.
Bon, vous n'allez pas couper, vous preniez un air pincé tout à l'heure en entendant le petit rapporteur, au cas de mon cul. Mon cul que vous dites.
Alors, oui, en fait, dans mon cul est une prononciation parisienne. On dit mon cul. Et mon cul, ça vient de deux termes qui ont exactement le même sens. L'un est d'avant l'écriture. C'est cuc. On en trouve absolument partout pour désigner des rochers, des montagnes, parce que quand même, avant l'écriture, nos ancêtres ont nommé pendant des dizaines de milliers d'années les lieux. Et nous ne savons pas ce qu'il en reste. Les Celtes n'ont pas tout effacé, ils ont absorbé ça, comme d'autres choses, les Latins aussi. Et donc, cuc est resté comme mot pour désigner un relief. Mais on savait plus ce que ça voulait dire. Et donc, on a rajouté mont pour...
C'est un redoublement, alors.
Un redoublement.
Un pléonasme.
Absolument un pléonasme, pour dire exactement la même chose.
Vous avez remarqué que dans le reportage de Daniel Prévost, les gens de mon cul, ils sont contents d'être à mon cul.
Mais ça les flatte, maintenant. Vous savez qu'il y a une association des communes au nom bizarre qui se flatte de ce que le nom de la commune a pu faire comme plaisanterie.
Mais ses habitants reconnaissent avec simplicité leur statut. Encore faut-il, on va maintenant aborder le chapitre des nouvelles dénominations, ne point péter plus haut que son cul, si vous me permettez.
Oh, je suis choqué, hein, Ah, une heure pas de coller, Picardie, ça n'existe plus. Non, là d'où que je suis né, tout y a disparu. C'est une catastrophe. Maintenant, ça s'appelle les Hauts-de-France. C'est n'importe quoi. Là, je suis retourné d'Achenor, pas de coller, depuis que ça a changé de nom. Là, je viens de retourner. Je suis pour Viromère. Eh ben, je ne l'ai pas retrouvé. En remontant d'Achenor, j'ai tout raté. J'ai raté le Picardie, j'ai pas trouvé le pot de collet, et j'ai perdu le Schneur. Il n'y a plus de panneau. Te sera de Paris, il y a un panneau géant. Les Hauts-de-France. Et après, plus rien. Je me suis retrouvé dans un endroit paumé, j'ai dit perdu, j'ai perdu. J'ai rendu visite à ma mère d'un Schneur, d'un Hauts-de-France. Et je suis perdu. Anciennement, Nord-Pas-de-Collet-Picardie, chez Douc. Non, tu t'es trompé, c'est pas ici, dis. Elle dit, merde, je me traite trop haut, disons. Je suis en Belgique ici, chouchou. Elle me dit, ah non, attention, on ne s'appelle plus en Belgique ici, hein. Ah bon, mais de Dieu, mais comment ça s'appelle maintenant? Notre grande Belgique s'appelle le royaume du dessus des Hauts-de-France.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Roger Brunet, qui publie aux éditions du CNRS « Trésor du terroir », autrement dit un dictionnaire des noms de lieux de France. Alors, vous nous expliquiez trop brièvement, Roger Brunet, quelle est la stratification complexe, combien il est difficile de la démêler. Mais là, on a des coups de force linguistiques.
Oui, assez banal, faut dire. Lorsque l'on crée aujourd'hui une nouvelle commune par fusion, ou même une intercommunalité, on l'appellera Terre Vive, par exemple. Ça n'a aucun rapport avec l'endroit où on est, mais ça fait bien Terre Vive. L'Aquitaine se prétend nouvelle maintenant, parce qu'elle s'est agrandie. Une région qui en réunit deux autres, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, prétend s'appeler Occitanie, alors que il y a de l'occitan ailleurs, et qu'en plus, donner un nom d'après une langue, c'est toujours assez dangereux, parce que ça crée une sorte de fausse personnalité. Mais malheureusement, tout cela est très banal. Eau est un terme valorisant. Lorsqu'on a créé deux départements en Corse, on en appelait un Haut de Corse, on n'a pas un Bas de Corse. On a Corse du Sud, parce que Sud, c'est valorisant aussi. Valorisant. Oui. Alors on évite le Nord, on évite le Bas.
Ça fait partie des stratégies de valorisation. Juste une parenthèse, et puis on va revenir aux nouvelles dénominations dans un instant. Autrefois, il y avait des villages, des lieux qui choisissaient, par volonté de se retrancher, des noms défavorables.
Oui, un certain nombre de noms. On ne sait pas exactement s'ils correspondaient à des craintes ou des peurs de ceux qu'ils nommaient, ou à une volonté, en effet, d'être tranquille et d'être contourné par les passants. Beaucoup de noms en mal ou mot sont de ce genre. Il y a des villages qui s'appellent Mauléon. Alors un mauvais lion, ça veut dire « ne vous en approchez pas, fichez-nous la paix ». C'est vrai aussi pour des pertuis, par exemple, c'est-à-dire des passages étroits. Mal-pertuis, mot-pertuis sont des noms extrêmement répandus.
Alors ça ne viendrait pas à la tête des décideurs ou des participants à des référendums, à des initiatives locales, de choisir un nom dévalorisant aujourd'hui. On va prendre quelques moments qui nécessitent des changements de nom. Les regroupements de communes. L'exemple que voici, il est tiré de la Touraine que vous arpentez. Alors, je lis dans votre atlas de la Touraine. Est-ce que j'ai dit que c'était chez Geste, éditeur? Semblançay, 2170 Semblançayens. Ah, il y en avait un extraordinaire. C'était un créancier de François Ier.
Ah oui, oui, oui. De Beaune de Semblançay, qui ouais. A encore des restes.
Mais il a prêté de l'argent au roi et il en a été récompensé. Et je vois aussi, à côté, Saint-Antoine. Du Rocher, 1650 Rocantoniens, une chapelle troglodyte et des lotissements. L'idée est venue en 2016 de regrouper les deux communes. Reportage de France 3.
Si la mobilisation était très forte ce dimanche dans la petite commune de Saint-Antoine-du-Rocher, c'est que l'enjeu est de taille. La consultation porte sur une question simple, oui ou non au regroupement avec la commune voisine de Semblançay. Et dès qu'on parle de clocher...
Je fais partie de Saint-Antoine-du-Rocher, je veux rester sur Saint-Antoine-du-Rocher, je veux pas être associé à une autre commune, et bon, il y a tout ce qu'il faut sur notre commune, et voilà.
Je préfère faire un choix, où on peut choisir maintenant, par un vote, par les discussions et tout qu'il y a eu, les réunions qu'il y a eu, qu'avoir un choix forcé dans 3-4 ans, parce que l'État va obliger de toute façon le regroupement des communes. Pour aujourd'hui, pour le vote, j'ai mieux voté oui.
Moi, je crois qu'il faut que chaque commune garde son identité. Je trouve que plus les communes grossissent, plus ça devient impersonnel. Voilà, c'est tout.
Alors, je vous livre le résultat du référendum, 80% de non. Mais en admettant que le référendum ait donné un résultat positif, comment auriez-vous composé le nom Semblançay et Saint-Antoine-du-Rocher, vous? Alors, il faut de l'imagination quand on est
oui,
géographe.
C'est aux habitants qu'il faut le demander. Ou bien, dans ce cas-là, on aurait pris quelque chose du genre Touraine en avant, ou des bêtises de ce genre. Ça existe.
Bah, je parlais de Terre Vive tout à l'heure.
Il y a Châteauroux Métropole, qui ne sera jamais métropole au sens légal du mot, mais qui a déjà le titre.
Donc vous auriez pu proposer ça?
Non. Je pense que j'aurais proposer tout simplement que Semblançay, qui est bien connu, absorbe en quelque sorte le nom de Saint-Antoine du Rocher.
Et alors, jugement d'un géographe, quand on regroupe trois ou quatre communes, il y en a une qui est sur une rivière, Luynes par exemple, dans l'Orne, il y a beaucoup de regroupements dans l'Orne. Mais le nom qu'on va coller, c'est une des communes du regroupement où il n'y a pas la rivière.
Oui, et on a aussi beaucoup de pertes de mémoire de ce genre. Il y a très peu de regroupements de communes dans l'Indre-et-Loire, mais il y en a un qui est en train de se faire, qui est fait maintenant, qui regroupe trois communes, deux en nom de saint et une qui s'appelle Ingrande. Et ça va s'appeler assez bêtement, je trouve, Coteau de la Loire. Alors Coteau de la Loire, c'est bien gentil, mais des Coteaux de la Loire, il y en a partout, ça n'a rien de spécifique. Et au contraire, on abandonne un mot qui avait du sens, qui n'est pas que là, il y en a d'autres en France, mais qui a un sens historique très profond, qui est Ingrande. Ingrande, c'est l'endroit entre deux grandes tribus, deux grandes confédérations, un endroit de partage, si vous voulez. Et cet Ingrande correspondait à la limite entre l'Anjou et la Touraine. C'est dommage qu'on perde ce genre de mémoire.
Parce que vous expliquez que les spécialistes des lieux ont la possibilité de parler des noms. Vous appelez d'ailleurs une coopération des différentes disciplines. Mais avec des exemples comme celui-ci, le géographe ne retrouve pas son latin, mais l'étymologiste non plus.
Bien sûr, ils ont des raisons de se plaindre autant que nous, même encore plus, parce qu'après tout, Coteau du Loir est un nom géographique. Mais la disparition d'un grand, c'est une perte pour les historiens et les linguistes.
Alors, dans votre dictionnaire des noms de lieux en France, Roger Brunet, CNRS, plusieurs chapitres sont consacrés à l'outre-mer. Je voudrais évoquer, pour finir, une expérience dont vous auriez peut-être aimé être, moi j'en aurais rêvé, être membre de la commission de toponymie des îles Kerguelen. Et là, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut.
Oui, c'est déjà fait, mais c'est vrai que pendant plusieurs dizaines d'années, ce pays vierge, inhabité, très grand, c'est la taille de la Corse en gros, a pu, dans toutes ses articulations, ses montagnes, ses glaciers, ses baies ou autres, il a fallu nommer tout ça. Et on a trouvé des noms bretons, on a trouvé des noms de grands navigateurs, on a eu le champ libre. Comme d'ailleurs, jadis, aux États-Unis, ceux qui colonisaient l'Ouest ont importé des noms, y compris des noms français, des noms italiens, des noms germaniques, etc.
Le Havre de Rottenhof, j'aime beaucoup. Et puis c'est à côté, au Kerguelen, des sept clos,
oui,
où je vais, mais qui sont à 700 kilomètres. Le pouvoir de nommer, vous pouvez nous expliquer la joie que ça donne?
Oui, je pense que c'est très utilisé par certains romanciers. Créer un pays comme le Rivage des Sirtes, par exemple. Le Rivage des Sirtes, c'est une œuvre d'un géographe.
Spécialiste de la randonnée,
Spécialiste
Julien Gracq.
De la randonnée aussi, Julien Gracq a adoré nommer ces lieux. Et j'avoue que si j'étais romancier, je m'amuserais beaucoup à cela.
Mais vous avez tellement de travail, vous allez remettre sur le chantier, en édition de poche, le Déchiffrement du Monde, un de vos maîtres livres, Roger Brunet, puis on attend l'Atlas du Berry, et puis peut-être un jour l'Atlas de l'Anjou, mais pour l'instant, Dictionnaire des lieux de France, Trésor du terroir, CNRS, Atlas de la Touraine, édition Geste. Merci à vous, l'émission était préparée par Franck Olivard, avec Julien Michel à la technique, et la réalisation, c'était Valérie Aestaraille.